physique par le père Philippe à Saint-Joseph le 19 février 85.
Je n'insiste pas sur le point de vue des différents aspects de la qualité chez les modernes. Je crois qu'on a suffisamment insisté sur quelques points. Nous allons tout de suite, à partir de là, essayer d'entrer dans la philosophie de la qualité. C'est-à-dire essayer, du point de vue métaphysique, de comprendre ce qu'est la qualité. Toute la topique est faite pour cela, il ne faut pas l'oublier. Elle est faite pour que nous puissions mieux comprendre ce que représente ce qu'on appelle qualité. Ce qu'on a toujours appelé qualité et ce que nous-mêmes nous appelons qualité. Donc il faut revenir à une expérience de nos qualités, puisque c'est la première expérience que nous faisons, et des qualités de nos voisins, des qualités des personnes que nous connaissons, des qualités des animaux, de la nature. Quand vous dites qu'une pomme de terre est bonne, qu'elle est trop petite ou qu'elle est grosse, c'est une qualité. Quand vous dites qu'une pomme est bonne, quand elle est gâtée, quand vous dites que l'eau est pure, qu'elle est agréable à boire, quand vous dites que le vin est bon, que le café est amer, hein, vous voyez, toute une série de qualités que vous faites tous les jours. Il faut réfléchir un peu sur ce que ça représente. Parce que d'habitude, on dit ça spontanément. C'est vrai, dans l'ordre des jugements de valeur, ça va très vite. On les porte très rapidement. Alors, la première chose à faire, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, c'est que, de fait, ces qualités existent, qualifient notre univers, qualifie notre propre personne. La qualité a cette chose tout à fait spéciale, surtout quand on la compare avec la quantité, c'est qu'elle se manifeste immédiatement. Vous ne réfléchissez pas très longtemps sur les qualités de quelqu'un. Évidemment, vous pouvez réfléchir sur les qualités apparentes. Vous dites, quand on connaît cette personne, apparemment, on peut se tromper parce qu'elle donne le change. Si on la regarde profondément, on voit qu'il y a d'autres qualités beaucoup plus intimes et beaucoup plus profondes. Vous voyez ? Alors on découvre tout un autre domaine de profondeur. Et c'est vrai, on découvre ce domaine. Et puis il y a des qualités qui apparaissent immédiatement. Alors, je crois que c'est quand même très important de saisir qu'il y a des qualités qui sont connues immédiatement, qualités sensibles. Et des qualités sensibles, alors on peut être porté plus ou moins vers telle ou telle qualité sensible, mais il y a des qualités sensibles, on ne peut pas nier des aliments, de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, des animaux, des personnes. Tout un domaine, et c'est le domaine de l'immédiat, les données immédiates dont parle Bergson, tout le domaine immédiat de ce que nous saisissons immédiatement. Ça se manifeste immédiatement, c'est pas la peine de réfléchir beaucoup. C'est pour ça que c'est toujours un danger, c'est qu'on risque de rester dans ce domaine des qualités qu'on décrit. Pas d'induction du côté de la qualité, c'est merveilleux. Il n'y a qu'une description. On décrit les qualités. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est le domaine artistique par excellence. On décrit, on manifeste, on montre ce monde des qualités. Les qualités existent. Il y a des qualités beaucoup plus profondes qu'on ne découvre pas tout de suite. Les vertus. surtout la vertu d'humilité. Ça ne se découvre pas tout de suite. Il y a des vertus qui se manifestent. Mais au fond, les vertus ne se manifestent qu'à travers leurs opérations. La vertu comme telle, vous la posez à travers ce fait que vous voyez quelqu'un toujours d'humeur égale. Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il est merveilleux? Vous voyez quelqu'un d'une générosité étonnante, pas un seul jour, parce qu'il y a des personnes qui sont généreuses un jour, il faut tomber le bon jour du mois, et puis le reste du temps. Il y a des personnes qui sont courageuses un jour par mois, et puis le reste du temps, ou un jour par semaine, si vous voulez. Vous voyez, on arrive à découvrir qu'il y a des qualités plus profondes qu'on appellera des vertus. Et on le fait à partir des choses extérieures. C'est la même chose pour la connaissance, pour la science. Faire un raisonnement par hasard juste le jour d'un examen, ce n'est pas nécessairement avoir l'habitus scientifique de mathématiques ou de philosophie ou de science. L'habitus forme l'intelligence de l'intérieur pour une manière particulière d'être. C'est la même chose, vous la découvrez qu'à partir de l'opération. C'est pas une induction. C'est quelque chose de particulier, comme une espèce d'inférence que vous faites. Vous pouvez faire la même chose pour l'art. Donc, je vois qu'il y a tout de suite deux domaines de qualité tout à fait différentes. Au point de vue de l'existence des qualités, je n'ai pas encore précisé ce que c'était, mais l'existence des qualités. Il y a des qualités qui se découvrent immédiatement par nos connaissances et nos expériences. Et des qualités qu'on soupçonne, qui sont plus cachées, qui sont plus profondes, mais qui restent bien des qualités, et qui sont à partir de certaines opérations. Puis il y a quelque chose qu'on peut découvrir quand on parle de quelqu'un qui a du tempérament. Ce sont des qualités quand même. Celui-là, il a du tempérament, ou bien ne pas avoir de tempérament. On ne peut pas compter dessus. Parce que, ou, dès qu'on s'appuie, ça tombe par terre. Pas de force. Vous voyez, quand vous parlez de la force de quelqu'un, pas la vertu, mais le tempérament, c'est pas la même chose. Des dispositions naturelles. Il y a des dispositions naturelles à la musique, à la peinture. Des dispositions naturelles, qui sont des qualités naturelles, ne sont pas quelque chose que vous découvrez tout de suite. Ce ne sont pas quelque chose que vous avez acquis. C'est encore autre chose. Je crois que nous pouvons, si on réfléchit un peu sur les diverses manières dont on regarde les qualités, saisir immédiatement ce que Aristote disait dans les prédicaments. Vous voyez ? Reprenez les prédicaments par mode d'expérience. Et je crois que c'est important pour nous de reprendre les prédicaments par mode d'expérience. Quelles sont les diverses expériences qualitatives que j'ai pu faire ou que je fais? Bon, je vois immédiatement les qualités sensibles. Je vois des vertus que j'infère. Je vois des dispositions naturelles. Et je vois des qualités particulières qui sont, au niveau de la vie, source d'opération. Et je peux ajouter que chaque vivant, chaque être que je vois, a sa physionomie particulière. Ce n'est pas son tempérament, mais c'est sa physionomie particulière. Il a une manière particulière de marcher. Ça, vous l'avez. voyez, je ne parle pas ici d'une marche lourde, hein. Vous voyez, c'est pas ça que je veux dire, mais une manière particulière de marcher, une manière particulière de se présenter, une manière particulière d'être en face de quelqu'un. Il y a des gens gauches, alors c'est de la timidité. Si vous le voyez naturellement, quand il n'est pas intimidé, il est tout autre. Vous voyez, on saisit comme ça la physionomie d'un être, la figurant. Donc reprenez, et ça c'est important pour nous, reprenez ce qu'Aristote nous dit dans les prédicaments pour redécouvrir ça personnellement dans une expérience, autour d'une personne humaine, autour de vous. De voir que tout ce qu'Aristote nous dit dans les prédicaments, oui c'est vrai, c'est le fruit d'une expérience. Médiate ou immédiate. La qualité se donne à nous directement à travers l'expérience. Et c'est ce qui fait toute la richesse de l'expérience. Et c'est tout ce qui fait la qualité d'une expérience. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Je crois que c'est ça. Si vous êtes dans un monde qualitatif, vous aimez progressivement la qualité. Je me souviens de ce Japonais à Paris que je connaissais bien, quand il me parlait de l'éducation de sa fille qui était très artiste. Il ne voulait que sa fille ne touche que des choses réelles, c'est-à-dire naturelles et belles. C'est son milieu. Je ne veux pas qu'elle ait contact avec des choses qui sont artificielles. C'est du grand luxe, si vous voulez. Et d'une certaine manière, ça peut être du grand luxe, mais en même temps, c'est peut-être aussi très pauvre, très... C'était très simple. Il aimait beaucoup mieux des choses un peu frustres, mais vraies, artisanales. Et il disait tout le temps... Il faut éduquer son toucher. Si vous touchez du plastique, vous n'éduquez pas. Les sensibles communs, vous n'éduquez pas. Et c'est vrai que l'expérience, c'est le monde des qualités. C'est le monde des qualités. Alors essayez de voir le milieu qualitatif de Saint-Jean-d'Arc. Ce qu'on dit qu'il faut autant que possible qu'il y ait quelque chose de vrai. Parce que la pauvreté peut aussi nous mettre devant des choses, hein, qui sont, si on avait des tables de bois vraies, plutôt que des tables comme ça, ce serait plus agréable, c'est bien évident. Si on s'asseyait sur de vraies chaises, et non pas sur des choses qui sont assez artificielles, ce serait plus agréable. Il y a tout un toucher, un climat qui est particulier, qui fait nos expériences qualitatives. Nos expériences qualitatives sont de cela. Il y a le milieu, l'habitat, il y a l'extérieur aussi. Ça ne dépend pas de nous. Quand il y a un beau soleil, quand il y a un peu de neige, pas trop, n'est-ce pas ? Et ainsi de suite, ben, c'est plus agréable que quand, de fait, on est devant un paysage qui n'a aucune clarté, aucune lumière qu'on est devant. Songez à tout l'aspect qualitatif de vos expériences. C'est la première chose qu'on doit faire au point de vue philosophique. Mais c'est très important pour le réalisme, ça. Le réalisme se fonde sur le jugement d'existence. Hein. Mais le jugement d'existence, c'est l'intelligence. Il n'est pas très qualitatif, le jugement d'existence. Mais il les implique toutes. Pas de jugement d'existence sans la qualité. Et je crois vous avoir déjà dit, et ce sera un sujet très intéressant de critique à voir, pas de jugement d'existence sans les sensibles propres. S'il n'y avait plus que les sensibles communs, vous n'auriez pas de jugement d'existence. C'est une chose qu'il faut arriver à découvrir, ça. Et c'est très important au point de vue philosophique. Mais ce n'est pas directement notre sujet, parce que ça, c'est un sujet de critique, mais à partir de l'expérience qualitative, c'est très important de comprendre qu'une expérience n'est une véritable expérience que dans la mesure où elle est qualitative. Et dans la mesure où elle est liée, justement, à tout un aspect qualitatif de la réalité. C'est très important de comprendre ça. Très important de comprendre qu'il y a là pour nous tout un domaine qu'il faut découvrir. Je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Je le dis rapidement parce que ça, c'est chacun d'entre nous. C'est notre expérience de carême. Redécouvrir la chaleur du petit déjeuner. Redécouvrir la qualité de l'eau quand on a très soif. C'est vrai, quand on ne prend que du pain et de l'eau comme repas, alors on goûte l'eau. Quand il y a autre chose, on ne goûte plus l'eau. Ça a du bon, vous savez, un peu de pauvreté, un peu de frugalité. Ça fait qu'on est devant des qualités qu'habituellement on passe très rapidement, tandis que là, au contraire, on reprend le sens de cela. Jeûner un peu au pain et à l'eau, n'est-ce pas, fait qu'on redécouvre des quantités de choses qu'autrement on ne découvre pas d'habitude. Quand on peut le faire, hein, parce que si on jeûne au pain et à l'eau, que le soir on tombe dans les pommes, ça ne va pas très bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais autrement, quand on peut le faire et maintenir son travail, très bien. Redécouvrir ces différents domaines des qualités, ça je crois que c'est très important pour nous. C'est une pédagogie qui est nécessaire. C'est un peu toute la méthode Vitose, hein? Redécouvrir les qualités. Alors, ce n'est pas la peine de le faire avec une méthode Vitose, on peut le faire tout simplement avec une méthode humaine. Toute simple. D'être quelqu'un qui sait, qui a conscience du milieu dans lequel il est. Il faut prendre conscience du milieu dans lequel on est. Pas pour le critiquer, mais simplement pour le voir. Pour essayer de comprendre. Pour ne plus être agacé par tel ou tel petit détail. Alors qu'il nous énerve, ce milieu est insupportable, tout le monde parle. C'est peut-être vous le premier. Parce que je crois que quand on garde le silence, on fait des zones de silence. Ne pas être agacé, vous voyez, l'agacement n'est pas une expérience externe. L'agacement est une expérience interne. Et ce n'est pas qualitatif. Et on se corrige de l'agacement par un réalisme plus grand des qualités. C'est une manière de dépasser ça. Vous voyez, autrement, on veut tout de suite changer de milieu. Et quand on change de milieu, on se transporte. Or, la source de l'agacement, c'est nous. C'est très vrai. Si on élevait un tout petit peu plus haut, on serait moins agacé par une quantité de choses. Lorsque vous vivez avec une très grande intensité, vous arrivez à dépasser les agacements. Quand vous vivez un peu en dessous du niveau de la mer, vous commencez à être agacé par une quantité de choses. Je prends ça, c'est parce que c'est pour essayer de comprendre ce que c'est que l'expérience des qualités. L'expérience des qualités, c'est quelque chose qui nous met en contact avec le réel. Alors, quelquefois, on s'agace soi-même à soi-même. Donc, il s'agit de prendre la bête du bon côté et de la caresser un tout petit peu, pour la prendre du bon côté, et pour arriver à se dire, mais non, c'est idiot de m'agacer de moi-même, c'est idiot, je dois accepter tel que je suis. Ce très grand réalisme, on s'accepte tel qu'on est, et s'accepter tel qu'on est, c'est justement faire cette expérience de qualités qui sont autour de nous, qui sont présentes autour de nous. Donc là, il y a tout un domaine, hein, mais c'est pas le domaine d'un cours, c'est le domaine de la vie. Et ça, c'est très important. Quand on voyage avec des artistes, on s'aperçoit qu'ils voient des quantités de choses que normalement quelqu'un ne voit pas. Surtout des artistes de la vue, des peintres. Ils ont le sens de ça. Ils voient, ils s'arrêtent. Alors évidemment, vous n'arrêtez pas tout le temps dans le couloir pour tâter le sol et voir si le sol est qualitatif ou pas qualitatif. Non, mais essayez de comprendre ce que ça représente. Deuxième aspect. Regardez les fonctions des diverses qualités. Pourquoi la qualité ? Vous se demandez pourquoi la qualité ? Quelle est la finalité des qualités ? Bon, les qualités permettent le contact. C'est évident que quelqu'un qui n'a plus de qualité, c'est un peu comme des pneus usés. Il n'a plus d'adhérence. Notre adhérence avec notre voisin, ce sont nos qualités. Et quand nous sommes de grande qualité et qu'on rencontre un autre de grande qualité, quelquefois, ça fait des étincelles. Parce que ce n'est pas les mêmes qualités. Et c'est vrai, ce n'est pas toujours les mêmes qualités. Donc, je crois que la première chose qu'on peut dire que la qualité, c'est de permettre le contact. C'est la rencontre. On ne vit plus en isolé. Quand je parle de contact, je ne parle pas de bavardage. Les bavardages ne sont pas des contacts. C'est tout à fait différent. C'est dire tout simplement des choses banales qui sont juste l'inverse d'un contact. Un vrai contact, c'est tout à fait différent. C'est le contact qualitatif, vous voyez là encore, expérience qualitative, contact qualitatif, c'est de comprendre les qualités d'une personne et d'aimer, d'échanger à ce niveau qualitatif. Quand il s'agit de notre finalité, par exemple, de ce que représente pour nous un effort de vie contemplative. L'effort de vie contemplative se vit dans la solitude, mais l'effort de vie contemplative se vit aussi dans la communauté. Alors, qu'est-ce que ça représente, cet effort de vie contemplative ? Et de pouvoir l'échanger avec quelqu'un. Est-ce que nous sommes tendus vers la contemplation ? Est-ce que c'est notre premier objectif ? Oui, c'est la qualité, ça. On ne peut vraiment être qualifié que si on est finalisé. Alors là, vous retrouvez ce point de vue de la fonction de la qualité. La qualité nous permet de poser le jugement d'existence et elle nous finalise. Nous sommes finalisés par nos qualités, parce que nos opérations vitales, les plus parfaites, comme l'intelligence et la volonté, nous qualifient. Et c'est vrai que c'est par le point de vue de la finalité qu'on est le plus qualifié. Et cette finalité, cet aspect de manière d'être finalisé, cette manière d'être en contact avec ceux qui sont proches de nous, je crois que ce sont les deux grands aspects de la fonction de la qualité. Le contact personnel, au point de vue connaissance et affectivité, et la finalité. La finalité, c'est le contact avec Dieu. Et le contact avec le prochain, c'est encore la finalité, si c'est dans la charité fraternelle. C'est très curieux de voir combien la qualité finalise et combien elle permet justement de découvrir ce point de vue de la finalité. Il y a autre chose dans la qualité, qui est moins immédiate. C'est la capacité que nous avons d'exercer certaines choses, d'exercer certaines opérations. Alors là, la fonction de la qualité est beaucoup plus de l'ordre de l'efficacité. C'est pas à négliger le reste. Un travail qualitatif est efficace. Et vous voyez là l'efficacité, non plus dans le contact, non plus dans le point de vue de la contemplation, mais dans le travail. Un ouvrier qualifié fait un travail qualifié. Qu'est-ce que c'est qu'un travail qualitatif? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente un travail qu'on n'est pas obligé de recommencer immédiatement après. J'ai quelque chose. Et c'est un travail qui aboutit à son terme. On réalise l'œuvre qu'on doit réaliser. C'est un travail qualitatif. Alors on peut faire avec plus ou moins d'élégance. Ça c'est second. C'est second. Parce que c'est une modalité particulière. On peut faire avec plus ou moins d'élégance, mais ce qui est important, c'est l'efficacité. L'efficacité fait partie de la qualité. C'est pas premier. Vous voyez, si vous essayez de chercher les diverses fonctions de la qualité, je crois qu'on peut encore dire que la qualité va permettre de se situer harmonieusement dans un tout, ou d'une façon qui n'est pas harmonieuse. Rompre l'harmonie, c'est encore une qualité, mais c'est une qualité négative. C'est vrai, quand vous n'êtes pas dans un milieu, vous n'êtes pas à l'aise dans un milieu, on dit qu'on n'est pas bien dans sa peau, et on peut dire qu'on n'est pas bien dans un certain milieu. C'est vrai. Il y en a qui critiquent toujours, toujours, toujours. Ça prouve qu'ils ne sont pas à l'aise. Vous voyez, quelqu'un qui respire, qui vit, critique moins. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, ne pas être à l'aise dans un milieu? Être en harmonie avec un milieu. Alors, il y a des petites désharmonies, puis il y a des grandes. Et quand ça touche à des choses profondes de notre être, on se dit, ah tiens, je ne suis peut-être pas là où il le faut. Hein? On commence à douter en voyant la situation dans laquelle on est. Et c'est vrai, c'est d'ordre qualitatif, ça. C'est pas le situs, hein? Mais c'est l'harmonie à l'intérieur de la partie à l'égard du tout. Et vous trouvez ça chez les animaux, un animal qui fait son terrier. C'est très curieux. Un animal qui fait son terrier. Nous, nous ne faisons pas de terrier. Hein. Mais on doit quand même faire un tout petit peu son trou, n'est-ce pas? Et alors, il y a une manière de vivre dans une communauté qui fait que, oui, enfin, j'ai trouvé la place qui me revenait. Là, je suis bien. J'ai compris. Il y a une certaine harmonie qui se fait. Au contraire, quelque chose qui fait qu'on n'est pas encore en harmonie. Un animal ne fait pas son terrier n'importe où. Il ne le fait pas dans n'importe quel milieu. Il a besoin d'un lieu qui le finalise pour lui permettre son repos. Tant qu'on n'est pas finalisé, il n'y a pas de repos. Vous voyez, donc, il faut essayer de voir ces diverses fonctions de la qualité. Alors, ce qui est le plus important au point de vue philosophique, parce que tout ça c'est d'ordre descriptif, c'est de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la qualité? Le qui est-il de la qualité? Le tiesti de la qualité que Platon s'était déjà posé, qu'Aristote se pose ensuite d'une manière très nette, et nous devons nous la poser. Qu'est-ce la qualité? Qu'est-ce que c'est la qualité? Alors on peut s'approcher successivement pour essayer de comprendre. La qualité implique une détermination. Moi, je crois que toute qualité a une détermination. C'est le propre de la qualité. Vous voyez, ça va directement contre la neutralité. C'est très curieux. Une qualité n'est jamais neutre. La quantité, on verra, elle est très neutre. Pas la qualité. La qualité ne peut pas être neutre. Il y a quelque chose qui, dans la qualité, empêche ça. C'est pour ça que saint Thomas dira que la qualité, c'est la neutre qui passe. C'est une détermination positive. Normalement, c'est ça la qualité, c'est une détermination. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que la qualité, est-ce que c'est une forme? Est-ce que je peux dire que toute qualité est une forme? Oui. Parce que toute détermination produit une forme. Forme s'oppose, vous voyez bien, à matière. C'est le couple matière-forme. La matière, c'est quelque chose qui est tout à fait en dehors de la qualité. Tout à fait. C'est la négation de la qualité. La matière, ça ira du côté de la quantité. Donc, on peut dire que toute qualité est une forme. Ah, ça permet de mieux situer ce que c'est une forme. Quand je dis que toute qualité est une forme, il y aura peut-être des formes qui ne seront pas des qualités. Quand la scolastique appelle forme substantielle, elle veut montrer que ce n'est pas une qualité. Mais ça, c'est peut-être un mauvais langage. Il ne faudrait peut-être plus le dire. Il faut mieux dire la substance et la qualité. Et je crois que le mot forme substantielle peut s'entendre au niveau théologique, mais pas au niveau philosophique. Au niveau philosophique, il vaut mieux dire substance, source de toutes les déterminations. Je sais très bien qu'on l'emploie constamment, et dans le thomisme, on parlera constamment forme substantielle, mais je crois que c'est un thomisme alors. Scolastique, où la distinction entre la philosophie et la théologie n'est pas suffisamment nette. Je crois qu'il faut réserver le mot forme à la qualité. Ça n'a l'air de rien, ces choses-là, mais c'est très important d'avoir un langage précis. Et si vraiment je peux identifier qualité et forme, c'est très important. Parce que ça me fait découvrir tout le domaine de ce qu'est la forme. On se pose toujours la question. Vous voyez, quand on fait la distinction entre matière et forme, la vraie distinction, c'est dire nature-forme. Nature-matière. Alors quand vous dites nature-forme, est-ce que vous êtes en face d'une qualité? Ou est-ce que vous êtes en face de la forme substantielle? Dans le langage de saint Thomas, oui. Dans un langage philosophique plus précis, puisque saint Thomas est théologien, n'oubliez jamais. Quand vous lisez la Somme, quand vous lisez du saint Thomas, c'est toujours une perspective théologique. Même quand il commente à la Somme. Il cherche toujours le point de vue théologique. C'est normal. Hein, saint Thomas fait de la théologie. Il n'a pas voulu refaire une philosophie. Et l'erreur de la scolastique a été de vouloir, à travers la théologie, redécouvrir une philosophie, ce qu'on ne peut pas faire. Il faut redécouvrir une philosophie à partir de l'expérience. Eh bien, je crois que quand je parle de nature-forme, la nature-forme implique toujours des propriétés. Et la propriété est une qualité. De sorte que la nature-forme est une qualité. C'est la physionomie d'un être. C'est comme ça que vous allez préciser tel être. Il a telle physionomie, il a telle manière d'être, telle manière de marcher, telle manière d'exister. Il a, si vous voulez, une telle opération. C'est la nature-forme qui est source de toutes les déterminations, de toutes les opérations. Donc, il a toujours une détermination qualitative. Tandis qu'au contraire, la nature-matière, c'est justement l'inverse. C'est la source de toutes les indéterminations. C'est la source de tout ce qui risque d'être accidentel et d'être quelque chose qui vient s'ajouter de l'extérieur. Donc, je crois qu'on peut, et ça c'est un très gros problème au plan philosophique, mais je crois que c'est un problème très important quand on cherche à savoir qu'est-ce que c'est que la qualité. C'est-à-dire que la qualité, c'est la forme. Ça ne dit pas encore exactement ce que c'est que la qualité. Parce que s'il y a deux mots, qualité et forme, il faut bien distinguer un peu les deux. Mais je crois qu'on peut dire que la qualité, c'est le point de vue de la forme. Alors, allons plus loin. Est-ce que toute forme ennoblit ? La nobilité. Toute forme détermine. Oui, ça c'est vrai. Toute forme détermine. Est-ce que toute forme ennoblit ? C'est là le problème. Eh bien, je crois qu'on peut dire que toute forme ennoblit immédiatement ou immédiatement. Vous allez tout de suite comprendre. Alors, c'est intéressant parce que nous retrouvons ici la distinction que nous avions faite à propos de la connaissance. Il y a des qualités sensibles qu'on connaît immédiatement. Il y a des qualités sensibles qu'on connaît immédiatement. Alors, le domaine de la qualité va être le domaine du plus et du moins. Et donc, il est tout à fait normal de retrouver du plus et du moins. Toute qualité va impliquer un ordre. Toute qualité implique un ordre. Il ne peut pas y avoir des qualités sans un certain ordre. Un ordre qui est très, très... C'est pas un ordre logique, hein, c'est un ordre qualitatif. Toujours. Alors, par le fait même, je peux dire que toute qualité est une forme ennoblie. Ennoblie de deux manières. Ennoblie d'une manière dispositive et d'une manière immédiate. Il y a des formes qui n'ennoblissent pas directement, mais d'une façon indirecte. C'est nécessaire qu'il y ait cela pour qu'il puisse y avoir autre chose après. Alors, quelles seront les formes qui vont ennoblir d'une façon dispositive, c'est-à-dire médiatée. D'une façon médiatée, pas d'une façon médiatée. Quelles sont les formes qui vont ennoblir de façon immédiate ? C'est, par exemple, tout ce qui nous donne des capacités d'opérer. Toutes nos capacités d'opérer nous ennoblissent de façon immédiate, pas de façon immédiate. Tandis qu'au contraire, l'opération qui sera une qualité, ou l'habitus, qui me permettra d'atteindre ma fin avec plus de facilité, va m'ennoblir immédiatement. Je peux saisir là une distinction qui est très importante à saisir, que la qualité est une forme qui ennoblit, mais qui ennoblit de deux manières totalement différentes. Qui ennoblit d'une façon dispositive, en ordre vers, une capacité. J'ai la capacité de connaître, de comprendre. J'ai la capacité d'aimer. C'est pas une vie, c'est pas immédiatement ce qui me permet d'atteindre ma fin. Mais c'est nécessaire pour atteindre ma fin. C'est comme une condition sine qua non, si vous voulez. C'est comme quelque chose qui m'oriente vers. Mais ce n'est pas le contact immédiat avec ma fin. Ce n'est pas le contact direct. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui implique directement cette noblesse. Je pourrais donc distinguer dans les qualités des qualités qui sont plus du côté du sujet et des qualités qui sont plus du côté de la finalité. Et c'est peut-être cela qui va me permettre de saisir exactement ce que c'est que la qualité. La qualité est quelque chose qui qualifie le sujet en premier lieu, c'est-à-dire qui lui donne sa détermination propre et qui lui permet d'être parfaitement lui-même. Ça, c'est la première chose de la qualité. Elle est tournée vers le sujet, elle ennoblit le sujet. Et puis, l'autre aspect de la qualité permet au sujet qui est qualifié d'atteindre sa fin. C'est les deux grands aspects de la qualité. Et ceci m'est donné directement quand j'essaie de comprendre justement comment la qualité est une forme qui détermine un sujet, qui me permet d'être parfaitement qualifié, c'est-à-dire d'être parfaitement moi-même. Il y a telle ou telle qualité que je n'ai pas, et c'est un manque. Si j'avais cela, je serais plus moi-même. Il y aurait quelque chose en moi qui serait plus parfait. Et puis, je peux atteindre la fin que je poursuis. Et en atteignant la fin que je poursuis, je suis lié à cette fin. Et en étant lié à cette fin, alors à ce moment-là, je connais la perfection plénière de mon être. Je ne suis parfait pleinement que quand j'atteins ma fin. Et c'est l'opération d'intelligence ou de volonté. Ce sont mes habitus, les déterminations secondaires que j'ai acquises, qui vont me permettre d'être plus proche de ma fin. Et si je suis plus proche de ma fin, je suis davantage, je suis plus immédiatement relié à mon bien. Et c'est ce bien qui me perfectionne et qui me permet d'être parfaitement moi-même. Alors vous voyez que là, si on comprend cette petite distinction qui peut se faire à partir de la forme, si nous comprenons cette distinction, nous voyons tout de suite que la qualité ne peut pas rester uniquement dans le domaine de la forme. Elle implique autre chose. Parce que la forme uniquement détermine le sujet. La qualité fait plus. Parce qu'elle ouvre le sujet à son bien, à sa fin. Et c'est peut-être par là que je comprends que la qualité n'est pas uniquement une forme, mais qu'elle est une forme qui implique un nobilissement, une nobilitas. Puisque la noblesse d'un être n'est pas uniquement son intégrité, il y a des êtres qui ont l'intégrité et qui n'ont pas de noblesse. Qu'est-ce qui permet à un être d'avoir de sa noblesse? C'est dans la mesure où il est finalisé. Un être qui n'est pas finalisé n'a pas de noblesse. C'est l'aspect de la finalité qui ennoblit un être. Parce que c'est par la finalité qu'il atteint son bien, qu'il est relié à ce bien, et donc qu'il est dans l'épanouissement plénier, parce qu'il a atteint son bien, il a atteint sa fin. Vous voyez, c'est important pour bien saisir justement la différence entre la qualité et la forme. Je peux dire que toute qualité est une forme. Je ne peux pas dire que toute forme est une qualité. Il y a quelque chose de plus dans la qualité de la forme. Mais toute qualité est une forme. Donc c'est un aspect, si vous voulez, j'aime pas dire générique de la qualité, mais c'est un aspect premier de la qualité. La qualité est premièrement une forme. Elle implique en premier lieu cette détermination. Mais elle a quelque chose de plus. Elle a quelque chose que seule elle peut donner. C'est que la qualité implique un ordre vers la fin. Et parce qu'elle implique un ordre vers la fin, elle me finalise. Toute qualité me finalise. Pas seulement les vertus, vous voyez. Ça, c'est une moralisation de dire ça. Toute qualité me finalise. Parce que ma finalité n'est pas seulement une finalité morale, puisque c'est une contemplation. Et la contemplation est au-delà. Puisque c'est le point de vue de l'intelligence qui est en éveil, et l'intelligence qui permet justement d'atteindre ma fin. Alors, on voit comment la qualité va impliquer ce point de vue d'une forme ordonnée vers la fin, ordonnée vers le bien, et donc qui va permettre à la personne humaine d'être dans un état de dépassement. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la forme qui détermine le sujet, alors je suis en présence non pas d'un dépassement, mais au contraire d'une forme qui possède son intégrité. Oui, au fond, c'est très important parce que ça fait permettre de voir que la qualité seule rend un être bon. Les déterminations et uniquement la forme donnent l'intégrité. Autre chose est l'intégrité d'un être, autre chose sa volonté. Et la qualité permet à un être d'être bon. Une qualité qui ne permet pas à un être d'être bon n'est pas une véritable qualité. Elle resterait de l'ordre de la détermination de la forme. Tandis qu'au contraire, si je comprends cet ordre vers la fin, je comprends qu'il y a alors quelque chose de plus dans la qualité que la détermination et tout simplement le point de vue de la forme, qui a un ordre vers le bien. Et c'est cet ordre vers le bien qui me donne le point de vue profond au point de vue philosophique. On y reviendra la fois prochaine pour essayer de comprendre par rapport à l'être. Qu'est-ce que ça correspond à ça? Et c'est très important parce que ça permet de comprendre comment la qualité est une attente de quelque chose de plus que la forme, et là ce sera l'orientation.